I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cordialement, Zoé.
Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis trop contente d'enregistrer parce qu'on va parler d'un métier qui m'a toujours intriguée. J'accueille Nathan qui fait rêver des millions de personnes, moi d'ailleurs y compris, et c'est un peu comme un magicien qui illumine le ciel le temps de quelques minutes. Il est artificier et il tire tout type de feux d'artifice. C'est un métier à haut risque qui demande beaucoup de précautions, d'organisation et surtout de la passion. Nathan est ici pour nous expliquer son métier et nous dévoiler les secrets derrière les plus grands feux d'artifice, donc c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue Nathan.
Salut. Est-ce que Zoé, ça va? Salut tout le monde, merci. Ouais, très bien et toi?
Bienvenue dans mon podcast, merci d'être venu parler de ton métier quoi.
Ben, merci pour l'invitation.
Est-ce que du coup tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie et voilà, te faire un peu une présentation aux auditeurs?
Ouais, donc je m'appelle Nathan, j'ai 31 ans et donc je suis associé dans un groupe de sociétés de feux d'artifice.
Okay.
Basé dans le nord et dans l'est de la France.
Et c'est vrai que c'est un métier qu'on n'entend pas tous les jours, je suis artificier du coup,
c'est
assez atypique. Comment t'en es arrivé ici? C'est quoi ton parcours?
Alors un petit peu par hasard, l'artifice j'ai commencé vraiment à 18 ans. C'est une société familiale, donc aujourd'hui je suis donc marié depuis quelques semaines avec l'une des filles des propriétaires de la société. Donc en fait par hasard, je suis entré dans la boîte après mes études. J'ai fait une école de commerce, l'ESSEG à Lille. Et en fait, en rentrant de l'étranger, j'ai eu cette opportunité pour développer des nouveaux départements. Okay. Et donc, j'ai découvert l'artifice. Vraiment, mon premier feu, c'est quand j'avais 18 ans. Donc, il faut savoir que c'est aussi l'âge légal en France pour être sur un feu d'artifice. Et donc, mon baptême du feu, c'était vraiment à ce moment-là.
Est-ce qu'il y a une formation spécifique à avoir? Est-ce que c'est quand même assez encadré? Parce que bah, c'est dangereux, quoi. Que tu tires quand même des... Ça s'appelle comment un pétard de feu d'artifice, non?
C'est vraiment de l'artifice.
Un artifice.
C'est des articles et le pyrotechnique.
Ok.
Qui sont de plusieurs formes. Donc, de manière générale, on a ce qu'on va appeler les bombes, les chandelles et les compacts.
Okay.
Ça, c'est vraiment les plus grands types d'artifices qu'on rencontre, ou en tout cas que tu pourrais voir sur un feu d'artifice classique à Paris ou même dans des plus petites villes de France.
Ok, ça marche. Et toi, du coup, tu nous disais, tu as fait du coup une école de commerce.
Ouais.
Ce qui n'a pas trop... Enfin, si finalement, ça a un rapport maintenant parce que tu gères tout ce qu'il y a derrière, mais pour faire vraiment la formation d'artificier, il y a des études spécifiques. Comment on arrive là?
Alors, en général, nous, ce qu'on fait déjà, il faut une formation pour en tout cas avoir ce qu'on appelle un certificat artificier, qui est en fait un certificat qui est obtenu suite à une formation en interne. Donc nous, on a vraiment des personnes dédiées pour ça. Et ensuite, c'est quelque chose qui va être délivré par les services de préfecture. Donc en fait, chaque artificier qui a son certificat, eh ben, en fait, va être enregistré auprès de sa préfecture, de son département.
Okay.
Et ce qui fait que vraiment, lui a une sorte d'accréditation, si tu veux, qui lui permet de venir tirer des feux d'artifice ou... En tout cas, d'être responsable d'un feu d'artifice.
D'accord.
Donc, c'est-à-dire que lui, il a aussi une partie légale quand il arrive sur une prestation.
Oui, parce que j'imagine que tu apprends les normes, les normes de sécurité, la formation dure combien de temps? C'est quand même assez long et conséquent comme formation?
Alors, pas forcément. La formation en tant que telle, il y a deux niveaux.
Okay.
Et donc, c'est entre 2 jours et 5 jours.
Ah, ça va.
Mais en fait, c'est un peu comme un permis. Si tu veux, tu passes le permis de conduire. Oui, tu as ton permis, mais clairement,
ouais.
Tu vas pas forcément être hyper à l'aise.
Il faut de la pratique.
Ah, exactement. Mmh. Et donc, du coup, nous, c'est pour ça qu'en général, soit avant, soit après, on essaye de déjà former les personnes sur les prestations. Comme ça, ils voient déjà si ça leur plaît. Parce qu'on a déjà eu des cas, par exemple, on a vu un pompier une fois, donc qui est quand même à l'aise avec le feu, avec les détonations, etc. Et en fait, si tu veux, la fumée de l'artifice, ça dégage une odeur qui est particulière, une composition particulière aussi. Et ce qui fait que lui, au contact de cette fumée, il a été pris vraiment il était frénétique quoi, vraiment il était incontrôlable et en fait il a perdu ses moyens et donc nous on l'a tout de suite vu et lui il ne s'en rendait pas compte, il était un peu dans un état second.
Okay.
Du coup on lui a dit non mais désolé mais tu pourrais faire n'importe quoi si t'es sur une prestation. Donc du coup, on a coupé court malheureusement la formation. Et donc c'est aussi pour ça qu'on essaye d'avoir en amont des personnes, on les met sur des prestations. Nous, ça nous permet de voir un petit peu est-ce que si les personnes sont aptes, et ensuite de déclencher cette formation.
Ok, et là, toi du coup, tu tires des feux ou tu gères plus la boîte, tout. Concrètement, là, ton rôle dans la boîte, c'est quoi ?
Alors, on a deux entités.
Okay.
Donc, moi, je gère essentiellement celle qui est basée dans l'Est.
Okay.
J'étais gérant pendant quelques temps de celle-là. On est en train de tout revoir dans la boîte, dans le groupe. Mais voilà, c'est en fait, c'est, comme tu disais, c'est un peu les backstage. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je tire quelques feux d'artifice, mais c'est assez rare parce que, comme on le verra tout à l'heure, on a beaucoup de prestations par an et c'est une grosse gestion au quotidien. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de boulot. On a quelques humains, mais surtout pendant la période estivale, hein, notamment du 13-14 juillet, on a énormément, énormément de personnes à gérer. Donc, c'est vrai qu'il faut préparer tout ça en amont. Donc, je suis aussi sur une partie commerciale, un petit peu partout, en fait, si tu veux. Comme beaucoup de PME, quand tu es dans la direction, on va dire, tu touches un petit peu à tout, quoi.
Et concrètement, comment ça se passe un feu d'artifice? Il y a un travail en amont sur le moment. Comment est-ce que moi, je vois le résultat dans le ciel, je suis en mode waouh, c'est trop beau et tout, mais qu'est-ce que c'est tout le travail derrière qu'on n'imagine pas?
Alors justement, tu as bien fait de le préciser. Nous, en général, on en rigole, on dit qu'on travaille deux jours dans l'année, le 13-14 juillet, mais au final, c'est pas du tout ça en fait. Tout au long de l'année, on a quelques semaines, entre guillemets, de répit. En fait, c'est tellement saisonnier et tellement concentré parce que, quand même, donc on est sur 12 départements.
Mm-hmm.
Sur le 13-14 juillet, tu vois, on va faire environ 315 prestations sur deux jours.
Mmh, c'est énorme.
Ouais,
alors
c'est
qu'ils
énorme.
Sont tous tirés à peu près à la même heure, non? Enfin,
c'est vous organisez très concentré sur le 13. Il y en a plus le 13 que le 14. Mais vraiment, sur ces deux jours-là, on a énormément de boulot. L'année passée, pendant cinq jours, j'ai pas dormi, mais vraiment pas dormi. Tu fais que charger le camion, décharger. Tu vas dépanner un artificier qui a un doute ou on a oublié quelque chose. Ou finalement, ce qu'on avait prévu, il manque un peu de matériel. Donc, t'es un peu à droite, à gauche, tu fais le relais si tu veux. Par exemple, rien que les contrats de travail pour cet été, sur chaque société, ou sur les deux, on a dû en faire un peu plus de 400.
Mmh, oui, c'est énorme.
Donc, parce que t'as en général deux personnes par feu.
Ok. Que deux ?
Ouais, le budget moyen en France d'un feu d'artifice est de 2 800 € pour environ 10 minutes.
Ok.
Donc, en général, on met deux personnes. Mais après, quand on fait des grosses prestations, par exemple, on réalise Strasbourg, qui est un gros feu. On a 15 personnes qui sont dessus.
Okay.
Et donc, qui arrivent le matin très tôt, qui finissent très tard parce qu'après le feu d'artifice, il faut tout remballer. Donc, c'est vraiment très, très conséquent. Derrière, tu as les locations de véhicules, tu as l'entretien du matériel, tu as toutes ces choses-là. Donc, ce qui fait que pendant l'année, on est vraiment bien occupé. Nous, grosso modo, au mois de janvier, on va vraiment aborder la partie commerciale. Donc, on va voir tous nos clients. Parce que sur l'année, on fait à peu près 700 prestations sur les 12 départements.
Ok.
Donc, tu vois, quasiment la moitié est réalisée que sur deux jours.
C'est fou. Et justement, quand, par exemple, le 13-14 juillet, c'est les mairies qui viennent vous voir avec un budget et elles vous disent on veut faire un feu, on a tel budget, créez-nous quelque chose. Et après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez.
C'est un peu ça. En fait, elles vont nous indiquer, comme tu dis, donc un budget, un lieu de tir.
Ah bah
parce
oui,
que
ouais.
Ça aussi, on a des grosses contraintes par rapport à ça.
C'est quoi les contraintes ?
Là, on a tiré, par exemple, pas ce week-end, le week-end d'avant, on a tiré le feu d'artifice sur la place Stanislas à Nancy, par exemple, pour l'arrivée de la Saint-Nicolas. Donc là, c'est en plein centre-ville. Donc les contraintes ne sont pas les mêmes au niveau de l'accès, au niveau de l'implantation, du choix des produits, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est complètement différent. Donc nous, on va prendre tous ces paramètres en compte. Est-ce qu'ils veulent de la musique ? Ça, c'est quelque chose de bête parce qu'aujourd'hui, on l'entend beaucoup sur les feux d'artifice. Mais ça va jouer aussi. Et puis ensuite, la date. Parce que ça, c'est important, forcément. Est-ce qu'eux ont déjà peut-être un artificier ? Ça arrive aussi. On a des communes qui ont déjà un artificier, qui a été formé pour x ou y raison et qui est habilité à tirer des feux. Donc ça, c'est
cool.
Vous
collaborez avec lui dans la création, vous lui donnez le matériel, etc.
Alors, pas pour la création. Nous, ensuite, quand on a réuni tous ces éléments, ça nous permet en fait de sélectionner les artifices. Est-ce qu'on souhaite un peu, si tu veux, mettre notre patte, entre guillemets.
Okay.
On essaye à ce que chaque feu soit différent. Qui permet justement aux communes de dire « Ah bah super, moi j'ai eu tel feu, par contre mon voisin, ok c'est vous qui l'avez tiré, mais il était un peu différent.
Mmh. »
Tu vois, on essaie vraiment de faire ça, et puis surtout de chaque année de changer. Mmh. Donc c'est aussi pour ça qu'on apporte des nouveautés, une sélection de produits qui est différente.
Tu me disais que vous étiez... Enfin, ils sont deux par feu, et c'est quand t'es deux, tu... Comment ça se passe en fait le tirage d'un feu d'artifice ? Genre, est-ce que c'est comme avant où t'allumes avec genre, je sais pas, un briquet ou pas, ou c'est détonation ? Combien de temps il faut, tu vois, en amont pour tout installer ? avant l'heure du feu d'artifice et que tout soit prêt à temps, combien de temps il faut après pour démonter. Enfin, le ratio entre, par exemple, pour un feu d'artifice de 10-15 minutes, combien il y a de temps d'installation avant et de le moment où ça tire, comment ça se passe?
Alors, en général, sur une prestation moyenne qu'on va réaliser, on va dire, si tu as deux personnes, en général, elles vont arriver fin de matinée, début d'après-midi. Tout dépend, encore une fois, selon les régions, parce qu'on a constaté en 2020, quand on a repris l'entité dans l'Est, qu'en fait, tu as environ une demi-heure de décalage au niveau du coucher du soleil entre l'Est et le Nord.
Ah, ouais. Ah bah oui.
Et donc, du coup, forcément, ils tirent plus tôt dans l'Est que dans le Nord. Okay. Et si tu prends, par exemple, le cas de la Bretagne, à Brest, ils vont tirer encore plus tard que nous.
Ah bah oui, mais
et ça, c'est des petites choses bêtes qu'on apprend au fur et à mesure du temps.
On pense pas.
Voilà, et donc, voilà, on va dire qu'il va leur falloir environ 7 à 7 heures à peu près d'installation. Donc eux, de manière générale, ils vont arriver avec un véhicule, tout est dedans, tout le matériel, le feu d'artifice, le matériel. Et ensuite, ils vont arriver vraiment sur ce qu'on appelle le champ de tir, le lieu de tir, la zone. Ils vont tout délimiter au niveau sécurité. Ça a été vu en amont avec la mairie. Donc des barrières, des indications comme quoi il y a un chantier pyrotechnique, etc. Parce qu'il faut savoir que tout chantier pyrotechnique qui est installé, la personne dont je te parlais, le chef de tir, lui, il a une responsabilité légale quand il est sur son feu. C'est-à-dire que c'est lui qui est vraiment maître de tout ça et qui a le dernier mot. Donc par exemple, il peut très bien interdire l'accès à monsieur le maire ou madame le maire.
Ok.
Et c'est lui qui a ouais,
c'est chez lui, quoi. De toute façon, s'il y a un accident, ça lui retombe aussi dessus, quoi.
Exactement. Mm. Voilà. Donc, il y aura des enquêtes, etc. Mais c'est vraiment lui qui est responsable. Mm. Bah, par exemple, quand tu prends l'exemple de Cholet, malheureusement, l'année passée. Alors, c'est un peu compliqué comme histoire, mais la responsabilité, je ne suis pas là pour dire qui a fait quoi, parce que c'est vraiment... On n'était pas là, donc on peut pas dire.
Oui, c'est ça, parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a eu un accident, du coup...
mortel.
Ouais, c'est ça.
Avec deux personnes du public qui sont décédées l'année passée à Cholet. Donc c'est vrai que nous, pour la profession, on a pris un sacré coup.
Ouais.
Mais d'un autre côté, tant mieux, parce qu'au niveau sécuritaire, ça veut dire qu'il y avait des manquements. Et voilà, malheureusement, il y a eu ce décès. C'est ce qu'on se dit généralement et qu'on dit aussi à nos partenaires, c'est qu'on est là pour vendre, pour diffuser de la joie aux personnes qui viennent.
Puis ça a peut-être aussi permis de remonter un peu et de refaire une petite piqûre de rappel à tout le monde.
Exactement.
C'est dangereux, donc en fait, tu peux pas rigoler avec la sécurité, il faut vraiment tout checker plein de fois pour être sûr que tout est en sécurité, quoi. Mmh.
Donc il y a, nous, les gros points sécurité, c'est ce qu'on appelle les distances de sécurité. Donc c'est-à-dire que pour un produit, ils vont te dire, par exemple, pour tel effet, on va avoir 90 mètres de distance. Et tu sais que ton public doit être à minimum 90 mètres. Nous, on essaye en général de prendre 5 à 10 mètres supplémentaires et puis pas s'amuser à mettre des calibres supérieurs qui font que forcément, ta distance va augmenter. Et ensuite, c'est comment sont installées les pièces d'artifice, ce qu'on appelle le calage. Et donc, comment, en fait, elles vont être maintenues pour être certain qu'il n'y ait pas d'incident de tir, ce qu'on appelle un incident de tir. Malheureusement, il peut y avoir des défauts produits. C'est de l'explosif, donc on n'est pas dedans. Même si on essaye de maîtriser, il faut rester humble par rapport à ça. On a des exemples de personnes qui, après 30-40 ans d'expérience, disaient « ouais, mais c'est bon, c'est de l'artifice ». Mais on est là aussi pour leur dire « oui, mais ça peut aller très vite ».
Ça explose, quoi.
Ouais, tout à fait. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment les deux gros points essentiels qui permettent de tirer un feu d'artifice en sécurité. Donc, eux, ensuite, ils vont être en lien avec les personnes de la mairie, avec les élus, qui vont leur dire « voilà, nous, on a prévu de tirer à telle heure ». Selon, forcément, ça peut être modifié. S'ils ont plus de monde, je ne sais pas, à la buvette ou, tu sais, pendant le bal, bon, ça peut être décalé de quelques minutes. Et donc, ils se mettent d'accord. Il y a le top de tir. Et donc, le feu d'artifice est mis en œuvre. Donc, pour rebondir sur ce que tu disais, on n'a plus ce système où, il y a encore quelques années, on venait avec... concrètement, c'était des grosses allumettes. Hein, donc c'était des lances d'allumage qui étaient des grosses allumettes pour schématiser, et en fait l'artificier se baladait dans son feu pour allumer grâce à l'ordre de tir, puisque nous, en fait, nos produits, on vient les séquencer par rapport aux effets qu'on souhaite donner, l'intensité par exemple en lien avec la musique. Donc quand t'as un moment creux, forcément tu vas mettre des pièces qui sont un peu plus douces au niveau même des couleurs. Par exemple, tu ne vas pas mettre un rouge pétant avec des effets incroyables quand tu as une musique qui est plus douce et dans le creux de la vague. Parce que nous, on vient vraiment un peu comme, si tu veux, le rythme cardiaque. On vient vraiment jouer sur les intensités pour que pendant tout le fil du spectacle, en fait, on continue à capter l'attention du spectateur et qu'il voit des choses différentes. Et donc, du coup, eux se baladaient à l'époque avec ça et ils s'amusaient. Ils suivaient leur tir en disant, tiens, ligne 1, hop, je le mets en œuvre. J'attends 20 secondes. hein, parce qu'on a donné 20 secondes de durée du produit. Tiens, je vais donc ligne 2, tac, tac. Et puis ensuite, même pendant le bouquet, même pendant les grosses bombes, bah, ils faisaient ça. Et puis en général, ils se couchaient au sol. Parfois, ils pouvaient, nous encore aujourd'hui, c'est de plus en plus rare. Mais parce que la recherche et développement fait qu'on arrive à avoir des produits un peu plus stables, etc. Mm-hmm. Mais ça peut encore arriver aujourd'hui qu'on a des défauts sur certaines pièces qui font que, par exemple, au lieu de partir en haut, bah, ça va partir sur le côté. C'est pour ça que les distances de sécurité sont importantes.
Et maintenant, du coup, c'est tiré comment ? Maintenant qu'il n'y a plus cette technique ?
Ouais, maintenant, c'est à... On va dire analogique, tu as plusieurs procédés, mais soit on a ce qu'on appelle une table de tir. Donc dans l'évolution, on a eu ces lances d'allumage. Ensuite, on a eu ce qu'on appelait les planches à clous. Donc concrètement, c'était une planche en bois. Tu mettais des clous parce qu'on a à côté une pile. Donc une pile comme tu peux avoir dans le commerce.
Une pile électrique.
Une pile électrique 4,5 volts. Elles sont mises entre elles. Et ensuite, ça fait une sorte de batterie, donc 18, 36 ou 90 volts. Ça te permet de tirer les feux. Et donc, c'est simple. Tu as deux fils. Il n'y a pas de plus ou de moins. Tu mets deux fils sur ta pile. Tu mets un fil sur sur une masse. Donc, sur un des clous, tous les fils sont regroupés. Et après, tu avais tes clous numérotés. Donc, 1, 2, 3, 1, 1, jusqu'à ce que, si par exemple, tu as 40 lignes, voilà, bah, tu auras 40 clous. Et donc, tu prenais ton autre fil et tu mettais juste ton fil sur le clou. Et ça faisait partir l'artifice.
OK.
Et ensuite, maintenant, ça a encore évolué. On a donc les tables de tir numériques qui font que, un peu comme derrière les enceintes de salon, alors je ne sais pas si ça se fait encore, mais tu as deux petites encoches rouge et noir.
Oui.
Tu as un plus et un moins, quoi, concrètement. Bah, nous, en fait, on vient mettre chaque fil dedans. Et ensuite, les deux autres fils sont mis sur ce qu'on appelle un inflammateur. Donc, c'est une petite pièce qui va faire une mini-explosion. C'est petit comme une tête d'allumette.
D'accord.
Avec un fil électrique au bout. Et en fait, c'est mis dans l'artifice en lui-même. Et d'accord. Ce qui fait que ça va créer une mini-détonation. Ça va faire partir l'initiateur qui va ensuite déclencher la matière active. Donc, en gros, c'est de la poudre noire qui va exploser. Okay. Et ce qui fait partir, en fait, le produit de manière séquencée. Donc okay, si par exemple c'est une pièce de 16 coups, et bah, ça veut dire que tu auras tout un cheminement qui fait que tu auras 16 fois une sorte d'explosion qui va faire partir au fur et à mesure. Et d'accord. Donc qui va donner la durée de ton produit.
Oui, donc en fait maintenant le travail en amont c'est le plus gros parce qu'il faut brancher tous les trucs, tout raccorder, tout organiser exactement. En fonction de l'ordre.
Et après lui il vient suivre son chronomètre et puis bah, un peu comme j'expliquais tout à l'heure, il va continuer à dire ligne 1, je viens appuyer pour le début, j'attends 30 secondes. Parce que c'est la durée qu'on a préconisée. J'appuie sur la ligne 2, ligne 3, etc.
Comme un chef d'orchestre, en fait. C'est un peu, il joue un...
C'est ça.
Une pièce, quoi.
Je viens appuyer sur des, sur des boutons. Et donc, normalement, il ne peut pas y avoir de déclenchement intempestif parce qu'on a ce qu'on appelle une double commande. C'est-à-dire que si tu appuies sur ton numéro en lui-même, il ne va rien se passer. En fait, toi, il faut que tu appuies sur un deuxième bouton de mise à feu pour vraiment valider que tu souhaites déclencher cette ligne-là.
Okay.
Donc ça, c'est sur ces produits-là. Mais sur nos plus gros spectacles, on a des systèmes complètement informatisés qui fonctionnent en haute fréquence, donc comme les CB, etc., tu sais, les talkie-walkie. Et donc, du coup, nous, en fait, tout est généré en amont et tout est calé au dixième de millisecondes près par rapport à la musique. Et donc, tout va partir à pile au moment où on le souhaite pour que, par exemple, au moment où la musique reprend à un moment hyper intense et que nous, on souhaite avoir tel tableau, ça va partir pile à ce moment-là. Et donc là, par contre, pour le coup, c'est encore plus frustrant parce que tu viens faire tes installations, tout est relié à un seul boîtier, ton boîtier, tu le relies à ton PC, et en gros, t'as tout ton... Bah, tout est à la suite, et toi, tu viens te mettre au début, et tu viens juste appuyer sur « Entrée ». Et là, si ça part, tant mieux. Si ça part pas, tu peux commencer à être en sueur.
Ouais, si ça part pas, c'est vrai que t'as toute la foule qui attend, et t'es là en mode... Alors, et justement pour éviter ça, est-ce que vous faites des séances d'entraînement avant ou de répétition, je sais pas, ou pas ?
Non.
Okay.
C'est ça qui est très compliqué sur ce métier, c'est que on n'a pas de... C'est vraiment sur une prestation, c'est une prestation. Donc un peu comme un... Alors non, un musicien, c'est même pas le bon exemple.
Bah oui, parce qu'en fait, là, vous avez de la matière, donc forcément, répéter, c'est un peu perdre, on va dire, des...
Ton produit.
Ouais, c'est ça.
Qui a une certaine valeur marchande.
Bah quand même, oui.
Donc nous, on fait des tests, hein, quand même, on voit les produits, etc. On sait comment ils fonctionnent. Après, par expérience, c'est aussi ça, notre force, c'est que nos plus de 70 ans d'expérience nous permettent justement d'anticiper au mieux et de préparer tout ça. Donc non, malheureusement, quand on est appelé par un client et qu'on lui fait une prestation... C'est pour ça que c'est un moment très stressant pour nous, le 13-14, parce que c'est une fois, quoi.
Et c'est un bouton.
Et si tu viens à te louper, malheureusement, ça arrive, c'est très rare, mais ça nous est déjà arrivé. pour x ou y raison, par exemple, en plein milieu, ton feu s'arrête. Mmh. Et on a des confrères qui ont ça aussi. Tu sais pas pourquoi.
Ah punaise, le stress, là, tu fais comment là du coup?
Bah, c'est aussi l'expérience de l'artificier qui fait que. Donc tu vois, des grosses prestations, on va pas mettre un débutant. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on va vraiment former les personnes, entre guillemets, par type de feu, et vraiment on va les faire monter en puissance. Tu peux pas mettre un débutant qui n'a jamais fait de feu sur une grosse prestation. Si en plus tu viens à tirer sur l'eau, tu as des paramètres qui sont vraiment assez conséquents à prendre en compte, donc on évite.
Et sur l'eau, justement, c'est quoi? Vous êtes sur des petits bateaux, des petites...
Alors, on en fait de moins en moins, mais on a quand même quelques prestations chaque année.
Okay.
Et en fait, on a des sortes de gros blocs en plastique qu'on vient assembler les uns sur les autres, enfin les uns avec les autres, pardon. Et ensuite, on vient mettre nos artifices dessus. Donc, d'accord, quand tu vois des prestations comme à Marseille, Nice ou des choses comme ça, ben en fait, c'est mis sur ça, c'est mis au large. Mmh. Alors, soit c'est lesté avec une grande corde dans l'eau, soit avec des poids qui sont directement dans l'eau quand c'est par exemple des étangs ou des choses comme ça pas profonds. Et nous, bah ouais, on vient se déplacer en bateau, en fait.
Ok, ah, c'est drôle.
Après, on peut faire plein d'autres choses. À Strasbourg, on avait mis une grue de 50 mètres de haut et on avait mis de l'artifice dessus qui diffusait, en fait, ça faisait comme une sorte de soleil, tu sais, sur certains trucs. On peut... En fait, il y a l'imagination qui nous freine et surtout le budget.
Ouais, parce que forcément. C'est sûr que les choses les plus extraordinaires, tu peux avoir envie de tout faire et tout, c'est mais ça. Au bout d'un moment, bah, il faut que la ville donne les sous, quoi. Exactement.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Exactement.
Et le premier feu que t'as tiré, est-ce que t'avais peur ou t'avais hâte ou t'étais... Comment t'étais?
Alors le premier feu... Quand t'es vraiment tout seul, hein.
Le premier vrai feu où c'était toi le responsable.
J'ai pris mon petit camion, je suis allé tout seul dessus.
C'est ça.
Ouais, ça fait bizarre parce que au début tu t'en rends pas trop compte parce que forcément t'as fait plusieurs prestations avant, donc voilà, ça déroule, t'as tes habitudes, etc. Puis en fait, plus le temps passe, plus tu commences à voir des gens arriver qui vont au bal, qui vont à la buvette, t'as Monsieur le maire qui vient te voir. Donc tu commences à réaliser un petit peu. Voilà. Et puis après, quand tu es au moment du tir, alors tu fais tous tes essais. Hein, on a l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on peut tester, ou même il y a encore des années, hein, tu peux tester en fait tes pièces d'artifice. Donc c'est-à-dire qu'une fois que tu les as mis, tu les as branchées, tu peux vérifier si tu as du signal, si tu as de l'intensité.
Si elles vont partir ou quoi.
Voilà, qui va déjà te rassurer et puis dire, voilà, j'ai fait tous mes tests, ah, il y en a un qui bug, pourquoi? Et là, tu peux refaire tout le chemin inverse, tu regardes où il peut y avoir un défaut, ça peut être toi un défaut au niveau de ton branchement, etc. Ça peut arriver. Et puis ensuite, ça te permet d'isoler et puis de dire, bon, bah celui-là, il y a un problème, c'est pas grave. Je mets quelque chose d'autre, j'ai des secours, donc ça me permet de faire ça. Donc jusqu'au moment du tir, ça va, et quand vraiment t'es tout seul, que t'as toute la foule en face de toi, alors c'était même pas forcément un gros feu, hein, il devait y avoir peut-être 400 personnes dans le public.
Bah quand même.
Ouais, alors après t'es dans le noir, donc c'est un peu comme quand t'es une scène. Tu vois pas forcément tout le monde, mais tu vois une masse. Tu vois une masse, et donc là forcément tu te dis, ok, faut pas que je me plante, en plus il y a la musique, je suis tout seul, machin, hein. Et puis en fait il faut surtout pas perdre pied, parce que c'est là que tu peux faire des erreurs et déclencher n'importe comment tes artifices. Donc ouais, beaucoup de tension, mais une fois que t'es dedans, ça va. Une fois que t'as lancé les premiers, tu t'oublies tout le reste. Vraiment, tu restes focalisé dessus. Tu fais attention, en fait, tu dois surveiller en même temps tout ce qui se passe. Donc c'est-à-dire que tu dois à la fois surveiller ton chronomètre, voir que tous les artifices, tout se passe bien. On essaye en général de compter, par exemple, je reprends l'exemple du 16 coups, par exemple. Quand tu vois sur ta fiche que c'est un 16 coups, tu le mets en route, tu vas essayer de compter en même temps. Et donc si tu sais que par exemple, il n'y en a eu que 12... Bon voilà, tu sais déjà que sur ce produit-là, pour ta vérification après le tir, tu vas faire attention. Parce que tu sais que potentiellement, tu as un produit qui peut être encore instable.
Ah oui, quand tu démontes, tu veux dire après, il peut finir d'exploser un peu peut-être
plus tard. C'est ça. Alors c'est déjà arrivé. Hein. Des fois, ça peut prendre feu, tu sais, parce que c'est du carton et c'est quand même de l'explosif. Donc ça peut prendre feu. Bon, tu vois quelque chose qui prend feu, c'est tout. Tu vas l'arrêter, etc. Mm-hmm. On a des extincteurs et tout. On applique, nous, les 30 minutes... De non-feu. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fini ton feu, tout le monde applaudit, machin, tout le monde est content. Déjà, toi, tu es
soulagé. Tout s'est bien passé, ça va.
Voilà. Et après, on va attendre environ une demi-heure. de nous, on range un peu notre matériel, etc. Et puis après, on va laisser les artifices pendant une demi-heure parce que justement, pour x, y raison, t'en as un qui se met à partir au bout de 5 minutes. Si t'es à côté, c'est pas top. Donc on va attendre le maximum et puis ensuite, on va aller tout contrôler. Donc avant de tout bouger, on contrôle tout et on vérifie que concrètement, tous les artifices sont partis. Et une fois que c'est bon, on dit ok, c'est bon, la zone est sécurisée. Donc nous, on reprend le matériel au fur et à mesure. Et puis ensuite on rentre pour d'autres aventures.
Et ça continue comme ça, voilà, toute l'année.
Exactement. Et pour autant, quand j'étais petit, j'avais peur des feux.
Ah ouais,
ouais.
Ah, c'est drôle, c'est le comble.
C'est ça qui est dingue.
Du bruit, de tout.
Ouais, vraiment, quand j'étais petit, mes parents m'emmenaient dans mon village et je voulais pas aller voir les feux, quoi.
C'est drôle.
J'étais devant. Alors, c'était plus, tu sais, une peur de... Même pas du bruit ou quoi, c'était de... Imagine qu'il y a un problème, ça vient sur nous et tout.
Ouais.
Et maintenant, bah, je me retrouve à en manipuler au quotidien, quoi.
On va rentrer dans la partie 2 du podcast, qui est un peu plus axée sur, du coup, les dangers. On a dit tout à l'heure que c'était un métier dangereux, et dans tous les cas, je pense que vous vous doutez pourquoi c'est dangereux. Est-ce qu'il y a souvent quand même des accidents, ou est-ce que toi, tu as des choses qui t'ont marqué ou qui ont marqué les gens avec qui tu travailles, des moments où malheureusement, bah, ça s'est mal passé ou il y avait un imprévu ?
Alors des accidents, nous, à notre connaissance, on en entend parler. On a la chance, heureusement, que dans notre société, il n'y ait jamais eu d'accident ou d'incident. Mais ouais, bah, comme on disait tout à l'heure, l'accident de Cholet,
ouais,
ça nous met un sacré coup. Parce que forcément, comme je disais, on est là pour donner du plaisir. C'est une fête, c'est notamment la fête nationale en l'occurrence. On n'est pas là pour qu'il y ait des incidents. Donc ça, on l'a toujours en tête. Des exemples, oui, on en a, surtout avant, parce que comme
c'était moins cadré... Oui, quand ils avaient les grandes allumettes, c'était moins...
ouais, par exemple, c'était moins cadré.
Ouais.
Donc oui, il y avait des petits incidents de tir. Il y en a eu un notamment dans une commune dans le Nord, et j'en discutais encore il y a quelques semaines avec l'artificier qui, à l'époque, lui, était en formation.
Okay.
Et en fait, ils étaient en train de monter des artifices dans la cave, en fait, de la mairie. Ce qu'on appelle un flatté, donc en fait, tu viens prendre ton détonateur... Hein, pour synthétiser, que tu viens mettre dans ton artifice. Et c'est lui qui permet, tu sais, comme je disais tout à l'heure, de mettre en œuvre l'artifice.
Ok, parce que l'artifice, c'est genre une poudre qui explose, en gros, on va dire, et dedans, ouais, tu mets un truc qui fait une mini-explosion qui fait tout exploser.
Ouais, en gros, tu as une explosion qui va déclencher ce qu'on appelle la matière active, donc la poudre noire.
Okay.
Ça, c'est un truc qui est très instable et qui est, bah, pour le coup, qui est vraiment puissant. Hein, c'est ce qu'on utilise, par exemple, pour mettre dans la dynamite.
D'accord, sympa.
Voilà, au moins ça parle. Et avec ça, on va venir l'agrémenter de ce qu'on appelle des étoiles ou en tout cas des couleurs. Donc par exemple, on va utiliser tel produit, tel matériau pour faire le vert, tel matériau différent pour faire du rouge, etc. Donc ça, nous on ne le fait pas.
D'accord.
On ne fait pas d'assemblage.
Vous arrivez, tout est fait.
Ouais, exactement. Il n'y a plus qu'une personne qui le fait vraiment, vraiment en France à 100%. C'est la dernière.
D'accord.
Nous, notre fournisseur était l'un des derniers à le faire aussi en France. Mais il y en a encore en Italie, en Espagne, etc. qui le font. Donc ça, il y a vraiment des personnes qui manipulent au quotidien ces trucs dangereux.
Ah, c'est fou.
Ouais. Ouais.
Punaise.
Donc eux, pour le coup, c'est vraiment un savoir-faire. C'est un métier complètement à part. C'est l'artifice, mais c'est un autre métier. Chacun son truc.
Oui, c'est un peu comme un chimiste, quoi. Là,
un petit peu.
C'est
exactement. Exactement.
C'est... Ok. Ouais. Et du coup, la personne faisait ça sous la mairie.
Et en fait, ouais, un truc qu'il faut jamais faire, c'est même le faire dans... Tu sais, quand il pleut, t'as un camion, t'as une camionnette, tu vas monter tes artifices, mieux vaut se mettre sous une tonnelle ou quelque chose où t'as de l'espace, soit pour toi courir, même si courir, ça servirait pas à grand-chose, soit en tout cas pour que ça évite d'être contenu, tu sais. Et donc, eux, ils l'ont fait dans la cave. Malheureusement, il y a eu un incident, alors lequel ils savent pas, parce que c'est ça qui est problématique avec l'artifice. Et en fait, ça a commencé à partir. Sauf que quand ça part, c'est d'une violence, donc tout est parti. Eux, ils ont heureusement tout juste eu le temps de sortir. Bon, il y en a un qui a quand même été brûlé à pas mal de degrés et tout. Ah, d'ailleurs, pourtant, il était pompier. Et il a arrêté.
Ah ouais, bah tu
m'étais
traumatisé après.
Ce métier, ouais. Alors qu'il avait une expérience de je sais plus combien d'années, quoi.
Ah ouais, mais t'imagines tout un feu d'artifice dans une cave, en fait.
Ouais.
Ça de partout, ça tape de partout, c'est... Wow.
C'est assez impressionnant. Là, il y a quelques jours, quelques semaines, au Canada, justement, il y a un camion. Je ne sais pas si tu as vu les images.
Ah non, je n'ai pas vu.
Qui a explosé. Alors, pour quelles raisons, on ne sait pas. Mais sauf qu'en fait, tu ne peux rien faire face à ça.
Donc, tu ne peux pas arrêter, en fait. Ce n'est pas comme,
pas comme
une bougie, tu l'éteins, bon, tu souffles dessus. Voilà. Là, tu peux
non,
pas.
Non. Non, non, bah là, si ça arrive comme ça, tu pars très vite. Hein.
Ouais,
tu
as juste à partir et à...
Ah ouais, ouais. Nous, ça nous arrive sur notre camion, quand on transporte ou notre dépôt. Moi, je peux te dire que même sur l'autoroute, je m'arrête et je cours, mais je prends rien.
Ah ouais.
Je laisse même mon téléphone, je pars quoi.
Parce que ça peut même faire exploser le camion, tu sais, s'il y a l'essence, je sais pas quoi, le feu.
Peut-être. Oh. Ah oui, si après ça prend feu, ouais.
Après c'est.
J'ai pas envie d'essayer.
Ouais, mais... non, bah essaye pas, du coup.
Mais oui, c'est impressionnant, les idées. De toute façon, c'est ça aussi qui choque, c'est que dès qu'il arrive quelque chose avec de l'artifice, bah forcément, c'est médiatisé, etc. Mm. Donc par exemple, ouais, bah Cholet, c'était le plus récent.
Ouais, malheureusement.
Malheureusement, effectivement, c'est toujours choquant. Parce que bah, c'est quelque chose qui est là pour apporter du plaisir. Tu sais, c'est comme un accident d'avion. Au quotidien, oui. on voit toujours des avions.
Mm.
Mais dès qu'il y a quelque chose, bah, c'est forcément des drames, etc.
Donc, c'est
un peu compliqué. Il y a aussi en 2017, de mémoire, dans la Loire, il y a un jeune de 26 ans qui est décédé. Pareil, il y a eu, pour je ne sais pas quelle raison, dans sa zone de préparation, ça a commencé à prendre feu. Et lui, en fait, bah, malheureusement, il n'a pas su partir. De son hangar,
ouais.
Et il est décédé dans... Bah, ça fait... Oh. Ouais, tout a pris, donc ça a fait une explosion, et puis voilà, il y avait beaucoup de kilos d'artifices.
Ah ouais, non, c'est vraiment... C'est dangereux, c'est un métier à haut risque. Vous avez des, je sais pas, des combis spéciales, ou des objets interdits à apporter, ou des...
Non, en soi, on... Alors, il faut éviter, c'est d'avoir des... Tu sais, du polaire, par exemple, en fait, qui pourrait créer de l'électricité statique.
Ok, parce que tu peux déclencher avec une petite électricité statique.
Les téléphones, normalement, quand tu manipules de l'artifice, c'est interdit.
Ok.
Parce que les ondes peuvent déclencher ça. Alors, nos produits sont testés, comme nos confrères, enfin, j'espère, sont testés, par exemple, nous, notre fournisseur, il va prendre des pièces d'artifice, il va les mettre dans un four à 180 degrés, je caricature, et il va laisser tourner toute la nuit. Okay. Et il va voir ce qui se passe.
Ok. Bon,
c'est ça. Et voilà, en fait, ils font des tests comme ça, parce que justement, nous, eux, en fait, ça leur permet d'avoir les accréditations pour les produits, du coup, de transporter, de commercialiser, de mettre en œuvre parce que tu as du public, etc. Comme on est en lien avec les services de l'État, les préfectures, etc. Donc, forcément, il faut prendre les précautions.
D'accord.
Mais sinon, non, pas d'outils. Il n'y a rien de particulier. Mmh. Téléphone polaire, et voilà.
C'est déjà...
C'est déjà bien.
C'est déjà assez, quoi. Après, il faut juste être organisé. Et la plupart, tu nous disais, par exemple, pendant le 14 juillet, c'est beaucoup, j'imagine, des mairies, fin, du secteur plus public, etc. Tu as quand même des acteurs privés qui, je sais pas, genre, imagine quelqu'un qui a un gros budget, qui veut faire un feu d'artifice pour son anniversaire, son mariage, je sais pas quoi. Ouais. Vous faites ça aussi?
Ah oui.
Ok.
Tout. En fait, tout type d'événement qui peut se prêter au feu d'artifice. Mariage, ça peut être des... On avait eu il y a quelques mois les 35 ans d'une société du Nord.
D'accord.
On a vraiment de tout, en fait, tout peut se prêter à l'artifice. Les mariages, de plus en plus, de plus en plus de personnes qui en font. Donc c'est vraiment, ça peut être un baptême, un anniversaire.
Tout, en fait.
Ouais, tout est possible.
Et c'est cool parce que c'est différent, j'imagine, pour vous, enfin, le 14 juillet, c'est pas les mêmes spectacles qu'un baptême d'un petit garçon, par exemple.
Oui, ouais, c'est sûr, tu vas pas mettre en œuvre les mêmes produits. Ouais. Et après, nous, c'est bien parce que ça nous fait une variété. Donc en fait, ça nous permet forcément... En termes d'expérience, ça nous permet de se diversifier et de connaître d'autres choses. Par exemple, là, ça fait quelques années qu'on le fait, et on le fait encore cette année. On va faire, alors c'est en intérieur, c'est de l'artifice d'intérieur, début février. Ouais.
Comment en intérieur?
Ça existe. Alors c'est des artifices vraiment spéciaux. Tu sais, par exemple, ça peut être des effets, ce qu'on appelle des effets de scène. Donc ça va être des... pour schématiser des petites pièces qui vont un peu comme tu sais sur les gâteaux quand tu mets des sortes de fontaines, tu sais les cierges magiques là,
qui
crachent en couleur or, mais en fait c'est les mêmes choses mais en plus gros, donc on va venir les mettre par exemple sur des ponts de Seine et puis on va venir faire tirer ça pour x ou y raison.
Ah c'est drôle, je savais pas.
Okay. Et ça nous permet de varier parce que c'est pas du tout la même façon de travailler.
Mm.
T'as pas les mêmes contraintes, etc. Et là par exemple début février on va faire pour le bal, ça s'appelle le bal des corsaires pour le carnaval de Dunkerque.
D'accord.
Donc c'est le plus gros bal de l'événement. T'as plus de 10 000 personnes qui, tu sais, qui tournent en rond là, autour d'un un truc là, et déguisées en femmes et tout.
Oh,
et donc nous, on fait encore cette année cette prestation.
Et c'est quoi la plus grosse prestation que vous avez dû gérer dans la carrière?
Ouais, dans ma petite carrière, bah, c'est le feu de les plus gros Strasbourg et Nancy.
Ouais. Il y a combien de personnes là environ? C'est énorme.
Ah ouais, bonne question. Bah Nancy, en fait, ils avaient eu des contraintes. Ils avaient limité une année, on l'avait fait sur la place Stanislas. Donc c'est la grande place de Nancy. Là, ils avaient limité à 22 000 personnes de mémoire.
Oh, ouais.
Et c'est impressionnant parce que nous, on était en haut. Et pendant que tu tires, alors je ne suis pas responsable de tout, mais tu as ton nom qui est sur tous les papiers.
Mm.
Donc quand ça commence à se mettre en œuvre, déjà, tu vois la place qui est noire de monde. C'est impressionnant, tu dis tous les gens viennent pour le feu. Et puis il y avait monsieur le maire qui était à côté de moi, et puis qui, en fait, on a regardé le feu ensemble. Donc lui, il l'a regardé avec émerveillement, moi aussi, mais surtout pour vérifier que tout se passait bien, qu'il n'y allait pas avoir de départ de feu, de pièces qui avaient un défaut ou autre. Mm-hmm. Donc tu vas pas pour les mêmes raisons. Et puis après, on a surtout des équipes qui sont vraiment dédiées. On a un responsable qui est vraiment sur la technique et l'artistique, qui est présent, etc., qui gère les gros spectacles. Donc c'est vraiment c'est les chefs de tir qui prennent, entre guillemets, la responsabilité. Donc toute la gloire ne nous revient pas forcément. Mm. Nous, on a la gestion au quotidien, entre guillemets. Et après, bah, eux, c'est leur événement. Donc forcément, ils sont très à cheval dessus.
Avant de faire le podcast, on a fait une visio pour que tu nous racontes un peu plus et que moi, je m'organise. Tu nous disais qu'il y a certains artificiers qui ont un autre métier à côté et qui font ça vraiment par pure passion, en plus de leur métier.
C'est ça qui est atypique dans ce métier. C'est qu'en fait, nous, on est là au quotidien. Donc, on est tous les jours pour la société. Hein. On a des personnes qui sont en CDI chez nous, etc., vraiment à l'année. Mais en fait, c'est ça, quand tu fais le parallèle, c'est qu'au quotidien, on est six personnes. Bon, on a des fois des stagiaires, etc. Mais pour gérer tout ça, et en fait, bah, quand tu es sur le terrain, tu fais appel à donc des artificiers qui font ça par passion, comme tu disais, et qui viennent de tous horizons. Donc, on a des étudiants, on a c'est pas péjoratif, mais on a des ouvriers, mm-hmm. on a des chefs d'entreprise, on a des vétérinaires.
Ouais, t'as vraiment de tout, quoi.
Ouais, c'est... ouais. J'ai même dans l'Est, on a un des responsables du CH de Nancy, okay. qui vient tirer son feu. Et en fait, ils posent leur congé pour dire, bah, moi, c'est mes 2 jours dans l'année où je fais ça. On a des conducteurs de train, enfin, vraiment, c'est hyper varié.
Ok.
Et jeunes comme plus âgés.
Ouais, ça touche tous les âges, en fait.
Ah ouais, ouais. Ah, moi, j'en ai qui sont retraités. Il y en a un qui a pas loin de 80 ans et qui a toujours tiré des feux depuis qu'il est jeune et qui continue à tirer des feux.
Et c'est vrai que c'est assez controversé, les feux d'artifice, parce que, justement, ça pollue, c'est dans le ciel, c'est etc., etc. Il y en a beaucoup. Comment, toi, tu te places par rapport à ça et... Ouais, qu'est-ce que tu aurais à dire sur ce sujet ?
Bah, c'est de plus en plus présent, l'environnement. Donc nous, en dehors de l'aspect sécuritaire qui est déjà une grosse contrainte, bah, comme on disait avec Cholet, tout est en train d'être revu, si tu veux, au niveau sécuritaire. Donc nous, on est déjà au taquet là-dessus, parce mm-hmm. qu'on a une image de marque à défendre, ouais. et on n'est pas là pour qu'il y ait des incidents ou quoi que ce soit. Donc il faut que la boîte, elle tourne, forcément. Donc nous, on est très à cheval là-dessus. En plus de ça, donc, maintenant, il y a de plus en plus d'aspects sécuritaires, d'aspects juridiques, etc., qui font qu'on a des contraintes. Parce que, par exemple, nous, notre boulot aussi, en tant que société d'artifice, c'est que, alors pas tous, mais beaucoup des spectacles qui sont tirés doivent être déclarés en préfecture, mm-hmm. qui leur permettent de savoir où il y a des spectacles, pour quelles raisons, etc. Et surtout, à quel endroit. Parce qu'il y a déjà eu des spectacles refusés parce qu'au niveau sécuritaire, c'était juste pas jouable. Quoi.
Okay.
Donc nous, ça nous arrive, et encore cette année, j'ai refusé des feux parce que je dis non, mais on va pas le faire pour dire de le faire. Quoi. Mm. Si c'est pour qu'il y ait un risque, etc., notamment, on a aussi les risques incendies avec la sécheresse et tout.
Ah, mais oui.
Ouais, donc c'est un métier qui est complètement changeant.
Ouais, c'est vrai.
Mais après, on n'est pas les seuls. Il y a beaucoup de métiers qui changent. Donc on est là pour justement redéfinir nos stratégies et puis prendre en compte tout ça. Donc on a ce lien avec les services de l'État qui font que effectivement c'est pas évident au quotidien quand tu vois que pour un feu tu dois aller, on va dire qu'à chaque feu on doit faire une déclaration, mm-hmm. C'est à dire que tu dois remplir quelques pages d'un document officiel indiquant où, qui va le tirer, etc. Donc ça veut dire que tu dois faire ton planning en amont. Si t'as des absents, tu dois tout rechanger, les reprévenir, et avant ça ou après ça, ça dépend pour les communes, tu dois dire qui était vraiment présent, mm-hmm. parce qu'en fait les artificiers, une fois qu'ils ont leur certification, ils doivent justifier d'un certain nombre de feux selon, donc il y a 2 niveaux. Hein, le premier niveau, sur 5 ans, il doit faire 3 prestations déclarées. Donc les feux qui ne sont pas déclarés parce que c'est des autres catégories, bah, en fait, ils le font. Alors ils le font, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ils n'ont pas ce renouvellement. Mmh. Donc c'est ça qui est compliqué. Et après, quand tu es sur le deuxième niveau, tu dois faire 3 prestations sur 2 ans.
Okay.
Donc ça veut dire plus d'un feu par an, mais parce que tu ne vas pas manipuler les mêmes types d'artifices. Donc du coup, nous, ça, ensuite, on doit déclarer quelles étaient les personnes réellement présentes. Et en fait, tu dois aussi tenir ce registre de dire, bah, attention, lui, on sait que ça va expirer dans autant de temps, il faut qu'il aille sur une prestation avant lui parce qu'il y a cette D'accord. raison-là et tout. Mmh. Donc on a tout ça. Et sur l'aspect environnement écologie, alors nous, au niveau des produits, c'est pas nous qui les fabriquons et les sélectionnons. Mmh. Mais en tout cas, notre fournisseur travaille beaucoup dessus, également sur la provenance des produits. Parce mmh. que forcément,
bah, oui.
Il y en a eu beaucoup qui étaient fabriqués en Chine. On revient un petit peu à tout ça, parce que quand tu vois les contraintes qu'il y a eu, notamment pendant la Covid, ça a été très compliqué, les approvisionnements, etc.
Ouais.
Et aussi les tarifs qui ont explosé. Bah, donc, du coup, on est en train de revenir un petit peu à tout ça. Donc au niveau environnement, ouais, ça va être un gros sujet. Donc ils travaillent vraiment dessus, notamment pour réduire... Enfin là, ça fait quelques années qu'ils travaillent dessus. Donc la matière active, donc tu sais, la poudre dont je parlais, ils travaillent dessus parce que forcément, qui dit moins de poudre, bah, dit moins de CO2 qui est dégagé au moment du tir. Au niveau aussi du transport, ça veut dire que tu peux transporter plus facilement. Au niveau de la manutention, parce qu'on fait attention à tout cet aspect aussi de comment dire. Au niveau de l'environnement de travail, on fait attention à ce que les personnes manipulent de moins en moins de charges lourdes. Donc tout ça, en fait, ça a un impact qu'on essaye de valoriser au mieux. Mmh. On sait que ça pollue, on ne va pas se mentir, le feu d'artifice, ça pollue, mais comme beaucoup d'autres activités, malheureusement, on a une médiatisation qui est importante avec la sécheresse, les émeutes, etc. Donc on n'a pas une bonne presse.
Oui, vous êtes, tu vois. C'est facile de vous pointer du doigt, quoi.
Exactement. Mais quand tu prends d'autres activités qui consomment aussi, ça passe un peu sous silence. Mais c'est tout. Mais nous, après, on est là aussi pour apporter justement des chiffres. C'est pour ça que c'est intéressant. Sur une prestation à 10 000 euros, par exemple, on est à environ sur un équivalent de 300 km en voiture. Et encore, en voiture, alors c'est des sources officielles, hein, d'une petite voiture. Mais quand je dis petite voiture, c'est genre, je crois même qu'une Toyota Yaris hybride, je les cite, elle consomme, enfin, elle émet quasiment un peu plus que ce qu'a donné l'ADEME. D'accord. Site du ministère.
Oui, donc c'est...
Donc une
pour faire rêver 22 000 personnes à Nancy, quoi.
Tu vois.
Ouais. Et les défis, là, pour le futur, c'est quoi pour le métier d'artificier ?
On aura besoin de se rajeunir. Alors déjà, parce que c'est un métier, justement, qui attire pas tant que ça, au
D'accord.
final. Alors qui est, justement, méconnu. Et qui attire pas tant que ça, on le voit, quand tu prends l'âge moyen des gérants de sociétés de feux d'artifice... Bon.
Ouais. D'accord.
Il y aura un truc à faire dessus. Donc, c'est vraiment de rajeunir cette image de ce métier. Après, bah, ça va être donc de travailler sur l'aspect environnemental, de travailler sur des nouveaux produits. Donc, les process sont en cours. Hein. C'est pas nous qui les faisons. Mais voilà, ce sera vraiment en fait de réussir comme beaucoup d'autres à dire que oui, on est pointé du doigt parce qu'on n'est pas considéré comme un métier essentiel. Et c'est ça qui est très compliqué, c'est que demain on peut, enfin, je prêche pas pour ma paroisse, mais demain le feu d'artifice s'arrête, dans ton quotidien ça va rien changer.
Ouais, oui.
Alors t'auras un peu moins d'émerveillement,
oui.
Mais le problème c'est qu'on va interdire ça, et puis il y a déjà eu d'autres choses qui étaient interdites, et puis en fait quand tu prends tout mis bout à bout, bah en fait c'est un peu comme les anciens, tu sais, qui te disent ah bah c'était mieux avant, on peut faire ci ça. Alors il y a des choses qui évoluent dans le bon sens. Mais c'est vrai que si on arrive à prouver que c'est pas forcément ce qui émet le plus de pollution, bah voilà, nous de travailler même sur le rien que l'aspect sonore. Les artifices sont de plus en plus travaillés pour qu'on ait une réduction du bruit. Même D'accord. nous, on pousse certains de nos clients à revoir leur catégorie de feu, qui permet justement de travailler là-dessus.
D'accord. Et bah, c'était hyper intéressant. Je sais pas s'il y a des trucs qu'on n'a pas dit, des sujets que t'aimerais aborder, qu'on est passé à côté, mais je pense qu'on a quand même fait un beau tour du métier. Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu veux transmettre à tes enfants, si t'en as ou si t'en auras, et que ça va être après un parcours de famille, une passion commune ?
Honnêtement, je saurais pas du tout te dire. Pour l'instant, j'ai pas encore d'enfants. J'ai envie de dire que ce sera selon l'évolution du métier et puis selon ce qu'eux souhaitent faire. Mm-hmm. Je vais pas forcément dire si tu vas être dans l'artifice,
ouais.
Putain, c'est la boîte familiale. Non, même nous, on a la chance, ça fait 70 ans qu'on existe et aujourd'hui, ça va, on est la cinquième génération.
Okay.
Donc, il y a une histoire qui est grave cool et comme beaucoup d'histoires de famille, ça c'est sympa. Donc oui, on va essayer de la faire perdurer au maximum.
Trop bien, en tout cas merci beaucoup Nathan d'être venu dans ce podcast nous parler de ton métier et nous faire découvrir un métier que beaucoup connaissent le résultat du métier mais pas forcément tout ce qu'il y a derrière, c'était hyper intéressant.
Merci à toi.
J'espère à vous qui nous écoutez que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me faire vos petits retours sur Instagram et puis je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode, cordialement Zoé.
Cordialement.